au Café des Psaumes, un rendez-vous culturel présenté par Yankel Fijalkov.
Bonsoir, bienvenue à l'émission Livre au Café des Psaumes, ici Yankel Fijalkov. Nous rencontrons ce soir Audrey Kichilevski, qui est maître de conférence à l'Université de Strasbourg, qui est co-directrice de la revue Histoire de la Shoah, la revue d'Histoire de la Shoah. Et elle vient aujourd'hui pour un ouvrage collectif publié par CNRS Éditions et qui est intitulé « Les Polonais et la Shoah, une nouvelle école historique ». Cet ouvrage est signé par plusieurs auteurs, français et polonais, et il a été dirigé par vous-même, Audrey Kichilevski, et Judith Yonkan, Jean-Charles Surek et Annette Wiewiórka. Audrey Kichilevski, bonsoir.
Bonsoir.
L'édition de cet ouvrage se fait dans un contexte bien particulier, à la suite d'un colloque qui a fait beaucoup de bruit au-delà du monde académique. Que s'est-il passé ?
Oui, bonsoir. Donc, effectivement, il s'agit ici d'un travail collectif, la publication des actes d'un colloque qui s'est tenu en février 2019 à l'École des hautes études en sciences sociales. Et donc, en tant qu'organisateur de ce colloque, il nous était important, il nous tenait à cœur de mettre en lumière, de faire connaître en France les travaux de chercheurs polonais, hein, essentiellement. Bien sûr, on contrepoint aussi quelques articles de nos collègues qui travaillent sur ces questions en France, mais il s'agissait avant tout de mettre en lumière ce que nous avons surnommé en sous-titre de notre volume « Une nouvelle école historique », bien que ces chercheurs eux-mêmes ne se revendiquent pas comme faisant partie d'une même école, mais c'est vrai qu'ils ont en commun de travailler minutieusement, souvent dans l'interdisciplinarité, en mêlant l'histoire, la sociologie, la littérature, des questions souvent difficiles relevant de l'histoire de la survie des Juifs en Pologne, l'histoire des relations entre Juifs et non-Juifs en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale et l'histoire sur la longue durée des conséquences, des séquelles mémorielles ou politiques de cette histoire douloureuse qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Hein. Voilà un petit peu pour le contexte.
Voilà. Alors, il y a une vingtaine de contributions qui s'articulent en deux parties. L'une consacrée aux Juifs dans la Pologne occupée et l'autre qui est titrée « Histoire, mémoire, contre-mémoire ». Et c'est suivi effectivement d'un long prologue qui invite, c'est un petit peu le dialogue des nouveaux et des anciens, hein, à une nouvelle école historique. Alors, qu'est-ce que c'est cette nouvelle école historique, Audrey Kichilevski ?
Oui, alors justement, ce qu'on a en commun, ce qui fait que nous avons choisi ce terme d'école, qui finalement ensuite a été assez largement approprié, hein, par les contributeurs présents dans ce volume et au-delà. Ce qui leur est commun, oui, comme je le disais, c'est d'abord cette approche assez interdisciplinaire. Hein. Tous ne sont pas historiens uniquement de formation. Hein. Il y a beaucoup de complémentarité. Il y a de la sociologie, il y a de la psychologie, de la littérature. Donc ça, c'est la première... Premier élément, tous également et toutes ont pour s'appuient sur des sources qui sont parfois connues depuis longtemps, mais souvent tout de même accessibles depuis moins longtemps. Hein. Il faut savoir qu'effectivement les sources en Pologne durant la période communiste étaient d'un accès limité, voire totalement impossible, et où quand elles étaient accessibles, il n'était pas possible de publier facilement sur ces sujets. Donc ce sont des sources qui sont ouvertes par finalement que depuis les années 90, vous allez me dire, ça fait déjà maintenant un certain nombre d'années, mais il a fallu les découvrir, les classer, les lire, les comprendre, parce que évidemment, il y a des sources en polonais, mais aussi beaucoup de témoignages en langue yiddish. Et donc, c'est un intérêt voilà, pour ces sources, croisées, bien sûr, avec d'autres sources disponibles hors de Pologne. On pense aux témoignages recueillis aux États-Unis ou en Israël de rescapés. Et si je parle de rescapés, c'est que ce qui est aussi commun à cette nouvelle école historiographique, c'est de placer au cœur de la réflexion l'expérience des Juifs en Pologne. C'est vraiment ça qui est central, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'était pas approchée auparavant en Pologne, mais tout de même, ce n'était certainement pas au centre des recherches sur la Seconde Guerre mondiale en Pologne, et c'est en ça que nos chercheurs se distinguent. C'est vraiment... quel fut le sort des Juifs dans leurs interactions au quotidien avec leurs voisins polonais, et pas uniquement en tant qu'objet de persécution sous la coupe des nazis, dans les ghettos, dans les camps, ce qui est un mécanisme assez bien étudié maintenant depuis longtemps. Et donc enfin, ce qui est assez commun à ces interrogations, c'est justement une approche plus souvent micro-historique. Hein, il s'agit d'études sur une ville, une région, l'équivalent d'un département, où on cerne vraiment le plus possible, le plus finement possible, les trajectoires des hommes et des femmes sous l'occupation, les interactions au quotidien, encore une fois, les phénomènes aussi de dénonciation, de collaboration certains secteurs de la population polonaise avec l'occupant allemand dans la persécution, dans la dénonciation, mais aussi des Polonais qui ont pu cacher temporairement, plus longtemps, aider de manière plus durable ou plus éphémère des Juifs qui se cachaient dans les campagnes polonaises, puisque c'est aussi le monde rural qui est assez largement bien représenté dans ce volume, alors que ce qu'on connaissait jusqu'à présent plus par les récits, c'était ce qui se passait dans les lieux d'enfermement, dans les ghettos des grandes villes qui ont laissé un certain nombre de témoignages, ou les camps de concentration. Voilà, donc ça aussi... De nouveaux lieux qui sont explorés par cette école.
Voilà, donc on est un petit peu plus dans la micro-histoire. Et finalement, celui qui introduit cette école, c'est l'ouvrage de Jan Gross, Les voisins. J'aimerais peut-être que vous rappeliez un petit peu comment cet ouvrage finalement fait école.
Oui, tout à fait. Effectivement, Jan Tomasz Gross qui a introduit ce colloque en ouverture au Collège de France.
Hein, avec invité, Patrick Boucheron, bien
voilà,
sûr.
Voilà, quand même sous la houlette de Patrick Boucheron. Jan Gross a été invité précisément parce que ses travaux ont été en quelque sorte pionniers pour initier les recherches des membres de cette école, entre guillemets. Et pourquoi ? Parce que il l'explique très bien dans sa conférence inaugurale. Il a eu toute une démarche d'interrogation au départ pour essayer de comprendre vraiment ce qui s'est passé pendant la guerre, dans les campagnes, et en particulier l'attitude des Polonais face à leurs voisins juifs, ce qui a donné lieu à un livre qui a fait couler beaucoup d'encre au moment de sa sortie en 2000-2002, hein, Les voisins,
traduit en français,
réédité récemment d'ailleurs, une micro-étude qui s'appuyait sur un témoignage, bien sûr ensuite recoupé, dans lequel Jan Gross révélait finalement au grand public ce qui était connu peut-être que du cercle étroit des spécialistes, à savoir que dans cette bourgade des confins orientaux de la Pologne en juillet 1941, à Jedwabne, au moment où la guerre bascule après la rupture du pacte entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, à ce moment de l'été 41, finalement, les Juifs de Jedwabne vont être massacrés, non pas par les nazis directement, mais par leur voisin polonais au cours d'une irruption de violence, hein, sans commune mesure. Hein, ils vont être brûlés vifs dans une grange. Cet événement, dont on sait maintenant qu'il a eu des épis, il a été imité hein, dans plusieurs localités voisines au même moment. Cet événement a longtemps été évidemment méconnu, hein, et ce massacre était jusque-là attribué aux seuls nazis, alors que les Allemands n'ont fait que surveiller, encourager certes ces violences, mais n'y ont pas participé directement. C'était vraiment les voisins. C'est pour ça que Yann Gross a donné ce titre à ce volume.
Voilà, c'est une magnifique monographie. Et en contrepoint, effectivement, de cette monographie, cette micro-histoire, il y a des articles, des chapitres d'ouvrages dans votre ouvrage collectif, par exemple celui de Jan Grabowski, qui a une approche très empirique et qui, au fond, propose même des chiffres démontrant que de larges parts de la population polonaise ont pris part à l'extermination des Juifs polonais. Mais est-ce qu'on peut identifier plutôt les milieux ? Est-ce qu'on pourrait dire des milieux plutôt ruraux, moins cultivés, plus pratiquants, catholiques, moins imprégnés de mythes ou plus imprégnés de mythes ? Comment on peut définir plus alimenté par exemple par les rumeurs ? Bon, c'est bien le type de rumeurs qui avait cours à cette époque. Est-ce qu'on peut identifier un petit peu le public des agresseurs ?
Oui, alors effectivement, donc suite à ce livre de Jan Gross et les débats qu'il a suscités, des travaux ont été menés, et donc il s'agit dans ce livre d'en rendre...
Il donne des chiffres,
d'en rendre compte, effectivement, et s'il est encore à l'heure actuelle impossible de proposer une synthèse définitive, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ce que nos collègues polonais ont déjà fait, c'est et d'ailleurs un gros volume de plus de 1000 pages est sorti. On attend la traduction prochaine en anglais et j'espère en français, dont des fragments étaient présentés sont présentés dans ce livre. Hein, donc plus loin est Dalej jest noc, plus loin c'est encore la nuit. C'est une étude systématique sur 9 régions de Pologne occupées. Donc là, il ne s'agit plus de se concentrer comme il y a été amené sur une bourgade et un pogrom, mais sur 9 régions rurales, effectivement. Donc ce n'est pas la situation dans les villes n'est pas est assez spécifique. Dans les villes, il y a la question du ghetto, des faux papiers, et dans la ville, c'est quand même anonyme. Dans la campagne, tout le monde se connaît. Donc c'est déjà un autre univers. Et ce que démontre cette étude, c'est que finalement, bien sûr, il y a des différences hein, selon les localités, selon leur géographie, leur proximité d'un centre de mise à mort ou d'un camp de travail forcé. Mais globalement, les chances de survie après la liquidation des ghettos dans ces zones rurales, les chances de survie des Juifs qui n'ont pas été embarqués dans les trains vers les centres de mise à mort, elles sont très minces, ces chances de survie. Elles sont très minces parce que c'est très difficile pour eux de trouver à se cacher, parce qu'est menée de manière assez systématique surnommé de chasse aux Juifs, hein, où littéralement les nazis ordonnent aux autorités locales polonaises de mettre en œuvre une traque dans ces campagnes. Hein. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, il va y avoir l'ensemble des participants plus ou moins contraints de participer à ces tracts. Mais après, voilà, il y en a qui vont faire preuve de zèle, il y en a qui vont les initier même sans demande spécifique des Allemands. Et c'est à la suite de cela que vont être dénoncés, attrapés, livrés aux Allemands plusieurs dizaines de milliers de Juifs. Hein, on peut... évoquer au moins ce chiffre, même si on n'a pas de comptage définitif. Les chances de survie étaient extrêmement faibles, comme le montre sans appel cet ouvrage.
Alors, il y a d'autres chapitres d'ouvrage qui parlent aussi de résistance, qui parlent aussi de sauvetage. Il y a quand même 6992, juste parmi les nations, qui ont été honorées par l'Institut Yad Vashem, et polonais. Voilà. Et ça pose la question, effectivement, des réseaux de sauvetage, de la résistance communiste, le fameux réseau Zegota. Comment vous situez, comment l'école historique en question se situe par rapport à ces réseaux et par rapport à ces nombreux justes parmi les nations.
Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut vraiment d'emblée préciser, c'est que si cette école a privilégié ses études locales et ses éléments de traque et de participation de segments de la société polonaise à la traque des Juifs, à leur dénonciation, à leur meurtre parfois, elle n'oublie pas dans l'expérience juive de survie, justement la survie, et cette survie, ce qu'elle doit au sauvetage, ce qu'elle doit au juste, et si l'étude des justes n'est pas au centre, elle est toujours là en filigrane, puisque si on a ces témoignages, c'est qu'il y a eu effectivement des personnes qui ont à un moment donné sauvé ces juifs. Donc oui, ils sont là, ils sont présents, et leur attitude est d'autant plus mise en avant et exemplaire qu'il s'avère et qu'il démontre précisément qu'elle était marginalisée socialement et qu'il était effectivement très dangereux pour un Polonais d'offrir asile, d'offrir nourriture, d'offrir quoi que ce soit comme aide à un voisin juif. Certes, il y avait la menace de l'interdiction formelle des nazis, mais il y avait surtout la stigmatisation du voisin, la peur d'être dénoncé par son voisin, par crainte, par conformisme, par antisémitisme aussi, hein, il faut le dire. Donc c'est vrai que c'est juste... risquaient beaucoup, surtout de la part de leurs voisins. Et c'est ça aussi qui est nouveau et ce qui est montré clairement par nos collègues.
Voilà, mais en même temps, Elzbietia Janiska, j'espère que je prononce bien, explique que finalement, les ghettos n'avaient pas besoin de murs.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, là, je parle... De fait, il y avait finalement assez peu de ghettos avec vraiment des murs, puisque dans ces milieux ruraux qu'on connaît finalement assez peu, hein, en France en tout cas, les ghettos n'avaient de fait pas de murs. On pouvait facilement entrer et sortir. Hein, l'image des hautes murailles comme on peut avoir pour Varsovie ou Cracovie, ce n'était pas le cas dans ces petites bourgades. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, tout le monde se connaissait et les Juifs étaient facilement identifiés, identifiables. Et c'était extrêmement compliqué aussi pour eux de se cacher, parce que voilà, ils étaient connus, reconnus, et les voisins polonais étaient incités à les dénoncer. Hein. On offrait, dans ce contexte de pénurie absolue, un kilo de sucre ou une bouteille de vodka, et ça pouvait être suffisant comme motivation pour aller dénoncer une famille juive cachée dans les champs ou la cave d'un voisin. Donc, faut se remettre dans ce contexte où aussi, bien sûr, la méfiance, la suspicion, le caractère d'altérité absolue que représente le juif est une constante hein, chez le paysan polonais. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'il n'a pas une amitié absolue envers le juif, il va aller jusqu'à le dénoncer ou le tuer de ses propres mains, mais la guerre permet parfois des dépassements d'interdits moraux, en fait, qui explosent aussi à la faveur de ce conflit, de ces conditions d'occupation extrêmes, de craintes aussi qui sont omniprésentes.
Et alors cet ouvrage construit à plusieurs voix, écrit à plusieurs voix, permet aussi de mettre en écho, par exemple, la figure de Juste aussi, et Irène Sandler, qui est la Juste promue, par la politique gouvernementale, disons, affichée, qui représente la Juste polonaise par excellence. Et donc il y a un travail, un article dans ce chapitre d'ouvrage qui montre qu'effectivement, c'est peut-être plus complexe que ça.
Oui, alors c'est ça qui est très paradoxal, c'est qu'à la fois je viens d'expliquer à quel point c'était difficile, compliqué et finalement héroïque hein, de sauver des Juifs en Pologne, et donc ces sauveteurs méritent tout notre respect, notre admiration, et pour autant là, depuis quelques années, mais reprenant en ça un certain nombre de tropes qui datent de la période communiste, hein, les tenants d'une politique officielle, d'une narration officielle autour de la Seconde Guerre mondiale tentent à mettre en avant, bien sûr, ces figures héroïques. C'est légitime, on a plus envie de parler de ces héros que de ces salauds, ça c'est vrai pour toutes les sociétés, mais cela tend parfois, pardon, à déformer un petit peu la complexité des choses. Justement, le fait que c'était si difficile, si compliqué, et parfois dans cette narration officielle, on a l'impression que tous les Polonais ont sauvé des Juifs finalement, et que finalement ce sauvetage n'aurait plus rien d'héroïque s'il est pratiqué par toutes et tous, et à vouloir généraliser ces attitudes, on les banalise et à mettre en avant effectivement certaines figures. Et encore, Irena Sendler, elle a effectivement sauvé des enfants juifs, mais la manière dont elle est parfois relatée, présentée, effectivement, ne fait pas justice finalement, ni à sa personne, ni à ses actes, ni à ce qu'elle...
autres justes, finalement.
Tout à fait. Voilà.
Voilà. Et donc, l'ouvrage est extrêmement riche. Il y a une autre monographie, évidemment, célèbre. C'est le fameux pogrom de Kielce en 1946, et qui montre que les choses ne sont pas terminées après la guerre.
Oui, tout à fait. Voilà, donc il y a beaucoup de contributions qui parlent de la guerre, mais comme je le disais en ouverture, aussi sur l'après, parce que ce qui est absolument frappant, c'est qu'effectivement, l'antisémitisme ne cesse pas avec la fin de la guerre, et les rescapés vont être confrontés à cet antisémitisme parfois violent et parfois mortel, hein, qui culmine avec le pogrom de Kielce, qui nous est bien connu, mais ici montré sous un jour un petit peu différent, en s'intéressant à la variété des acteurs, hein, et la complexité de ceux-ci, où la police communiste s'avère être en fait tout aussi hostile aux Juifs et abritant un certain nombre d'anciens fascistes d'avant-guerre. Voilà, donc on a comme ça tout un éventail, un portrait social de cette ville de Kielce qui va s'embraser et faire 42 victimes juives au mois de juillet 1946. Voilà, un vrai pogrom qui est relaté ici et qui montre hein, véritablement ce véritable problème hein, de segments hein, de la société polonaise face à ses voisins juifs qui continuent après la guerre.
Voilà. Et alors, comment... Il y a des lois récentes en Pologne, peut-être qu'il faut quand même en dire un mot, limite la capacité de ces chercheurs polonais à s'exprimer sur cette période.
Oui, voilà. Donc, ce qui nous a poussé effectivement à inviter nos collègues, c'est que ces recherches qui sont menées depuis une vingtaine d'années, elles ont pu être menées, mais elles sont actuellement remises en cause parce que elles montrent les choses dans leur complexité et parfois sous un jour qui n'est pas tout blanc, mais plutôt gris. Effectivement, en 2018, donc juste avant ce colloque, une loi a été votée qui pénalisait le fait d'affirmer qu'il y avait une co-responsabilité de la Pologne, de Polonais, dans les crimes commis contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est extrêmement problématique, puisque cette loi, même si elle a été amendée et qu'elle...
Israël est un petit peu intervenu.
Voilà, il y a eu effectivement des interventions internationales, des pétitions, notamment en Israël. Et bien sûr, ça s'est un peu apaisé, mais des procédures judiciaires sont encore en cours, pas tout à fait. Et ça, c'est toujours compliqué pour les chercheurs. Ce sont toujours des questions extrêmement brûlantes et débattues.
Oui, et cette question ce livre ne concerne pas que la Pologne. Le dernier chapitre est fort intéressant puisqu'il reprend l'exemple du Rwanda et des relations de voisinage aussi compliquées qu'il y avait. Au Rwanda.
Oui, tout à fait. Et on est très, très heureux de pouvoir justement élargir comme ça ce spectre. Et dans ce bel article de Sidi Ndiaye, nous avons une étude des mécanismes en fait, d'exclusion sociale, de manière de penser l'autre, hein, qu'on peut tout à fait transposer sur d'autres violences de masse et d'autres génocides.
Oui, et on a d'autres chapitres, évidemment, sur les programmes d'enseignement en Pologne. On ne peut pas y revenir, malheureusement, à cause du temps. Sur les pratiques scolaires, qui sont peut-être en décalage par rapport au programme de l'enseignement, si j'ai bien compris, et qui donnent une lueur d'espoir aussi dans le contexte que nous vivons. Merci Audrey Kichilevski d'être venue pour parler de cet ouvrage.
Merci.
Édifiant. Je rappelle le titre de l'ouvrage, Les Polonais et la Shoah, une nouvelle école historique, aux éditions du CNRS. Merci Audrey.
Merci à vous.
Livre au Café des Psaumes, un rendez-vous culturel présenté par Yankel Fijalkov.